Bonjour frères et sœurs. Ah, votre bonjour est froid. Hein? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien?
Oui.
Voilà. Ce sujet est très délicat et très sérieux. Et c'est la première fois que je vais en parler clairement en deux niveaux, ce samedi et samedi prochain. En fait, le samedi prochain sera plus dans la profondeur de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce sont des choses que je vis, que j'ai vécues depuis assez longtemps et que je voudrais partager avec vous pendant ces temps de formation. Certaines choses vont être un peu dures à entendre, mais il faut les dire. Certaines vérités vont parfois vous poser plein de questions, qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut les partager. Ça peut paraître un peu tabou. Dans les églises qu'on n'en parlait pas, c'est mieux qu'on en parle clairement. Vous savez, l'ennemi aime qu'on soit ignorant. L'ignorance permet à lui de continuer à agir et de détruire de plus en plus de vies et même de séparer les gens dans les communautés. C'est pour cela que par la grâce de Dieu, Dieu a voulu qu'on puisse nous réunir après un séjour au Sénégal, ce qu'on a vécu là-bas. On a pu penser avec l'équipe entière de nous retrouver pour parler un peu de ce problème du combat spirituel. Vous avez certainement entendu parler de ça, il y a des livres qui sont écrits, il y a beaucoup de choses qui ont été partagées, des séminaires, des formations par-ci, par-là, et même des ministères de combat spirituel qu'on en trouve parfois dans le monde. Mais on ne va pas aller dans le sens de détailler des choses qu'on sait déjà, mais plutôt on va se retrouver sur l'appui de la parole de Dieu. Que dit la Bible par rapport à ces problèmes de combat? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que le Père dit? Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit par rapport à ça? C'est pour cela qu'on va prendre ce temps-là, pour pouvoir apprendre ensemble, discuter de cela, et prendre aussi un temps, Dieu nous permet, pour le temps des questions-réponses. Et nous croyons que le Seigneur va vraiment nous bénir aujourd'hui et le samedi prochain. Je vais prier le Seigneur maintenant, encore une fois. Père, nous voulons élever ton nom parce que tu es vivant. Nous voulons élever ton nom parce que tu es puissant. Ta parole dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous approchons avec confiance auprès de toi et nous savons que tu vas nous guider. Nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu incomparable, un Dieu redoutable qui a donné Jésus pour nous libérer de toutes les forces du mal. Malgré ce combat, nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ au-delà de la croix de Golgotha. Cette réunion, Père, est juste une réunion de victoire qui proclame ta grandeur et ta puissance au milieu de nous. Voici ton peuple réuni et ton Église réunie pour ta gloire. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos cœurs, rends nos âmes disponibles à recevoir ta parole avec simplicité de cœur. Écarte toute barrière au milieu de nous. Que ta gloire repose sur nous, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Béni soit ton nom. Père, nous nous remettons entre tes mains. Sois glorifié, Père, en toutes choses. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. À quel moment j'ai compris qu'il y a un combat spirituel? À quel moment j'ai pu saisir ce mystère-là? J'étais converti, mes parents nous ont appris la bonne nouvelle depuis le bas âge, on allait à l'école dimanche. Après un certain moment, mon père me disait toujours, ma foi ne va pas te sauver. Si tu ne changes pas, si tu ne crois pas en Dieu, tu seras en enfer. Même si tu vas à l'église, avec moi à l'église, mais tu dois un jour dire oui à Jésus-Christ. J'ai dit, mais quel est ce papa compliqué qui parle des choses, de parler comme ça? Il me dit, c'est la vérité. Tu dois croire en lui réellement. Ce n'est pas l'église, mais c'est Christ qui va te sauver. Oui, j'ai compris ça. Souvent, quand on est dans une famille chrétienne, souvent, les jeunes, les enfants s'appuient sur la foi de leurs parents. La foi des enfants qui sont dans la famille chrétienne, c'est une foi qui est double à l'intérieur et une partie des parents, une partie aussi de lui-même. Cette foi n'est pas propre, n'est pas pure. Il faut un jour que l'enfant puisse se démarquer de la foi des parents. Accepter lui-même de marcher avec le Seigneur. Et mon père m'en a parlé clairement. Tu dois changer. Tu dois un jour dire oui à Jésus-Christ et là tu seras sauvé. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas dans le royaume des cieux. Alors j'ai commencé un peu à réfléchir. Et un jour, je disais à la dame qui nous apportait la bonne nouvelle à l'église, je dis, écoutez, que faire pour être sauvé? Elle nous a expliqué cette histoire-là. J'ai dit, oui, moi je vais te sauver. Et j'ai reçu Jésus dans mon cœur. C'était le début de tout, j'étais content. Les années ont passé, j'ai fait mes études, mais il y avait un combat, c'est ce que je ne comprenais pas au fond de moi. Des combats, parfois, je voyais pas la profondeur. Mais j'ai compris ça le jour où j'ai fini mes études. À l'université, tout était terminé, je me réjouissais parce que maintenant il faut travailler, il faut garder l'argent. J'étais tellement content. Études après, c'est le travail. Parce que je sais que j'ai un grand devoir par rapport à ma famille, une grande famille qui a besoin de mon soutien, même si des frères aussi qui sont plus grands que moi. Mais j'avais cet amour pour ma famille, vraiment de l'aider, sérieusement. Je me disais, ce que j'ai fait comme étude, je vais gagner beaucoup d'argent. J'étais tellement content. Alors, ce que j'ai fait comme étude, il y avait beaucoup d'offres, mais peu de gens étaient diplômés par rapport à ça. Et les gens étaient engagés après les études. Malheureusement, Dieu avait un programme compliqué pour nous. Et par sa grâce, pour la première fois, j'entends la voix du Seigneur pour la première fois. C'était clair dans mes oreilles. J'étais dans un bus, il me disait, une voix qui disait, donne-moi ton diplôme. Là, je reviens de la faculté, je rentre à la maison, j'étais tout content, j'ai commencé à penser déjà à l'argent, comment je ferais les choses, j'aurai une maison, j'aurai une voiture, c'était génial. Mais tout d'un coup, Dieu va briser tout ça, donne-moi ton diplôme. La voix dans le bus me dit, mais c'est qui parle? J'ai regardé comme ça, il n'y a personne qui parlait, et le bus continuait, la voix répand deuxième fois, donne-moi ton diplôme. Ben, je n'ai rien compris. J'ai dit, bon, c'est moi qui pense comme ça. J'arrive à la maison, tout est bien. J'ai un peu fait abstraction de cette voix-là. Je dis, bon, ça, c'est pas clair, c'est pas du tout ça. J'ai cherché le travail avec mes amis. Tous mes amis ont trouvé du travail. Et ce qui m'a surpris un jour, j'ai fait quelque part dans une entreprise, une grande entreprise de construction. Et là, j'arrive, ils disaient, mais ils ont mis une affiche qu'ils engagent des ingénieurs. J'arrive là. Tout content, c'est que oui, aujourd'hui, j'aurai mon emploi. La dame me regarde, me dit, monsieur, ton diplôme, oui, c'est ça que nous voulons. Mais je pense que tu dois revenir dans 2 ans. Je dis, mais madame, mais tout est clair. Je réponds aux critères. Elle dit, mais reviens dans 2 ans, parce que maintenant, on n'engage pas. Je dis, mais c'est écrit là-bas, vous engagez. Elle dit, non, tu reviens dans 2 ans. Et n'insistez pas. Je dis, mais c'est quoi cette histoire de 2 ans? Partout, les portes se fermaient. Et je continue à chercher, rien ne marche. Tous mes amis, tous, étaient déjà engagés. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ma belle-sœur, il a dit, va dire à ce jeune homme-là, s'il n'abandonne pas à résister par rapport à ma voix, il verra ce que je ferai de lui. Alors, elle m'appelle, elle dit, écoutez, elle dit à mon oncle, appelle ton neveu de venir à la maison. Je viens chez eux, et l'oncle me dit, va voir ma femme qui est là. Elle me dit, je dis une chose simple, si tu n'abandonnes pas ta position, tu verras ce qui va t'arriver. Dieu t'appelle à le servir. Pourquoi tu résistes? J'étais effondré. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu n'as pas appelé bien avant que je commence l'université? Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Et tout ce que j'ai fait comme étude pour finir le pasteur? Ah non! Je ne veux pas. Alors, je voulais négocier avec le Seigneur. Écoutez, on peut s'entendre. Je vais rester à l'école du dimanche, comme j'aimais beaucoup les écoles du dimanche. J'étais avec les enfants. Je vais rester là-bas. Et puis, ça suffit. Puis, à côté, je travaille. Je t'aime toujours. J'ai négocié, mais ça n'a pas marché. Avec Dieu, on ne négocie pas. Alors, tout allait mal, de mal à mal, de pire en pire. J'ai dit, mais pourquoi continuer à résister? Je me suis retiré 7 jours dans une campagne, là où il y avait un terrain que mon père avait acheté. Il y avait une cabane là-bas. C'est comme une forêt, il n'y avait pas grand-chose. J'étais là tout seul. Mon père dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tout seul? Et c'est dangereux. Je dis, mais je vais aller là-bas. Si je reviens vivant, merci Seigneur. Si je meurs là-bas, Dieu se le sait. Si je partais avec juste quelque chose, une couverture, ma Bible, un stylo, un cahier, et je suis parti. Sans rien à manger, 7 jours de prière. Au 7e jour, il n'y avait rien des premiers jours, il n'y avait rien du tout. Mais je dis, bon, j'ai prié, mais tu ne parles même pas, je suis depuis 7 jours. Et le 7e jour, la nuit, quand je dormais, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Alors il me dit, regarde. Et j'ai vu la Bible. La Bible qui descendait du ciel. Une Bible tout est en ordre, qui descend du ciel. Et la voix qui disait, tu vois ce livre-là, c'est ma parole. Ce livre-là te nourrira, te vêtira, te gardera et va sauver des âmes. C'est ça qui te suffit. C'est ça ta garantie de ta vie. Et ce livre qui tournait, qui c'est la Bible. D'autres choses, je ne dirais pas, c'était ma chose profonde. que personne ne sait que j'étais tout seul. C'est des choses que j'ai pu voir dans le royaume des cieux. Je ne peux pas en parler. Ce n'était pas permis. Et tout ce que j'ai vu, ça m'a tellement terrassé. Au réveil, je dis, mais alors c'est ça que tu me donnes, ça. Et pendant que je parlais, la voix revient. Sers-moi. Première fois, ça a commencé par là. Sers-moi. Mais sache que ça ne sera pas facile pour toi. Tu seras combattu. Le combat sera à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur. Sache-le, tu seras combattu. Mais je serai avec toi. Alors sers-moi. J'ai accepté de le servir et de marcher avec lui. Et c'est là où je commence à comprendre. Non, je comprends qu'il y a un combat dans ce monde ici. Que tout ne sera pas facile pour toi. Tu seras combattu, mais reste avec moi. Regarde toujours moi. Et allons jusqu'au bout et tu verras ce que je ferai. Je parlerai de ce que je vis spirituellement dans ce combat, au fur et à mesure qu'on va avancer, mais voilà le début de toute l'histoire de ce combat. Après la prière, le matin, pendant que je priais, autour de cette cabane, il y avait des bruits énormes. Et des bruits, je ne comprenais pas. Je sors, je regarde, mais je ne vois rien. Mais des cris terribles. Et je suis rentré, mais j'avais peur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et la voix revient encore. Ce sont des forces des ténèbres qui sont là-bas, qui parlent. Ils savent que tu es là, mais sache, ne crains pas, je suis avec toi. J'ai commencé à avoir peur un peu, mais c'est quoi cette histoire-là? J'ai plié mes affaires, je suis parti. Mais j'avais peur. Et enfin, j'ai fait la théologie à Nongin, et puis vous connaissez l'histoire. Bon, on est là aujourd'hui à l'église chinoise, comme pasteur. Voilà ce que Dieu a voulu. Et quand on est rentré du Sénégal, quand l'équipe a dit que c'est mieux qu'on fasse une formation, j'ai dit, bon, c'est bien. C'est mieux qu'on fasse ça, c'est une très bonne chose. Et voilà. Mais pendant que j'ai prié pour ça, le jeudi dernier, pendant que j'ai prié pour ça, la semaine dernière, et clairement, j'ai vu dans une grande vision, il y avait un chrétien, une chrétienne que je connais. Nous, on l'appelle chrétienne. Je la connais très bien. C'est comme il y avait dans de l'eau, comme une rivière. Et cette chrétienne-là, elle entrait dans l'eau, elle sortait. Elle était au-dessus de l'eau, elle était couchée sur l'eau. Elle entrait, elle sortait. Je dis, mais je la connais. Elle entrait, elle sortait. Le Seigneur me disait, tu connais qu'elle est chrétienne. Elle ne m'appartient pas. Ça m'a foudroyé. Je te montrerai. Il y a des faux frères et des fausses sœurs. Oh, ça m'a terrassé. Elle entrait, elle sortait. Elle me regardait. Elle planait sur l'eau. Et moi, je la regardais. Je vous dis qu'il y a des choses qui vont vous choquer, mais il faut en parler. Et au réveil, je me suis dit, mais je la connais. Et au fond de moi, la pensée revient, tu ne la connais pas. Elle n'est pas de nôtre. Mais je la connais très bien. Et je l'apprécie beaucoup. Elle dit, je te montrerai encore d'autres choses. Je te montrerai. Je vous dis des choses que je vis. Je connaissais un jeune homme d'une église. Il sert beaucoup. Arrivé au niveau du conseil de l'église. Et chaque fois que j'allais dans son église, je le regardais. Le Seigneur me disait, celui-là n'est pas de nôtre. Celui-là n'est pas avec vous. Dis-lui qu'il change. Je dis, mais ce n'est pas mon problème. C'est lui dans son église. Ce n'est pas mon problème de dire ça. Et ça va créer des problèmes. Non, arrange-toi à lui dire ça toi-même. Et la pensée arrivait tout le temps. Dis-lui ça. Je dis, mais Seigneur, arrange-toi, dis-lui toi-même. Chaque fois que je venais à l'église, c'était ça chaque fois. Chaque fois que je venais, c'est le même problème. Un jour, je lui dis, si tu le veux, convainc-le, et lui qui me pose la question. Alors une fois, j'étais dans l'église, après la prédication, il vient et dit, j'ai à te parler. Je lui dis, oui, il faut qu'on se voit. Je lui dis, oui, je suis d'accord. Il s'approche, pendant qu'on parle avec lui, il dit, tu sais, je ne suis pas de vôtre. Alors je lui dis, mais toi, tu es ici, tu travailles pour lui dire, je ne suis pas des vôtres. Je n'ai jamais accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est mes parents qui m'ont mené à l'église. Je suis baptisé parce que je voulais faire plaisir à mes parents. Je sers parce que c'est la famille. Mais réellement, je n'ai jamais relation avec Jésus-Christ. Je suis là pour être. Mais j'ai compris aujourd'hui après la prédication, je veux devenir chrétien. Et vous savez, quand un garçon pleure, c'est sérieux. Hein? Il pleurait. Alors, il me dit au fond de mon cœur, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, qu'il n'était pas des nôtres. Amen. Est-ce que nous sommes tous des nôtres ici dans cette salle? Je ne vais pas semer de doutes, hein. Est-ce que nous sommes tous des nôtres? L'extérieur physique qu'on voit, ce n'est pas toujours vrai. Mais il y a l'intérieur des choses qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Le combat spirituel, tu n'es pas épargné. Vous avez reçu la feuille chacun, on va aller vite. Vous, petits enfants, c'est le verset qui est là, vous êtes des dieux et vous avez vaincu les faux prophètes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prenons la dernière phrase. Celui qui est en vous, une présence qui libère, une présence qui sauve, c'est Jésus-Christ qui est en nous, le vainqueur. La fin de la phrase, celui qui est dans le monde, l'ennemi, une autre présence qui combat. Tant que nous sommes convertis enfants de Dieu, il y a un combat spirituel. Celui qui est en vous, Jésus-Christ, celui qui est en nous, et l'autre qui est dans le monde, il y a deux présences qui sont opposées. Et ce combat est réel. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, mais c'est vrai, il y a un combat. Satan cherche à détruire les hommes, les églises et les personnes. Mais celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Et dans le monde, il y a un autre esprit qui s'oppose à nous. Et ils sont nous qui veulent nous détruire réellement, qui veulent nous séparer, nous faire du mal. Cette présence-là qui veut détruire, le Seigneur l'a vaincu sur la croix, qui nous a accordé la victoire. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons commencer par le combat spirituel est une réalité incontournable. Souvent, on n'en parle pas. Oui, c'est des choses des gens qui voient les démons partout. Non, c'est une réalité qu'il y a un combat spirituel. Il y a des forces du mal, il y a des démons qui sont réellement, qui attaquent les chrétiens, qui attaquent les églises. Il y en a vraiment. Souvent, ils sont minimisés. Bon, les démons ne sont pas. Non, ils sont réellement là. Et ils font du mal à beaucoup de familles, à beaucoup de personnes. Mais qu'il nous faut ouvrir les yeux, comprendre qu'est-ce qu'ils font. Comment devons-nous comporter, nous, l'église d'aujourd'hui? Comment devons-nous faire par rapport à ça? Après ce séminaire, on ne va pas arriver à avoir des démons partout. Mais non, mais à être prudent dans ce que nous faisons, à comprendre les choses, à discerner ce que nous voyons. Qu'est-ce qui se passe? À bien discerner les choses autour de nous. Premier sujet, ce qui est caché à nos yeux, qu'on va commencer maintenant. Quelle est la position de l'Église et les disciples de Christ? Quelle est sa position par rapport à ce qui est caché? Oui, il y a des choses que nous ne voyons pas. Des choses qui nous sont cachées qu'on ne voit pas. Dans une église, l'église n'avançait pas. Cette église n'avançait pas du tout. Et il y avait très peu de monde. Un jour, un pasteur est venu là-bas à cette église. Pendant qu'il prêchait l'évangile, cet homme, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Il a rempli beaucoup de dons spirituels. Pendant qu'il parlait, il voit la porte de l'église. Au lieu de voir la gloire du Seigneur, mais des forces du mal debout devant la porte de l'église. Des démons debout devant la porte de l'église et qui empêchaient les gens d'entrer dans l'église. Il dit, mais c'est quoi cette église? Et pendant qu'il a fini la prédication, il a dit, bon, on va prier pour cette église. Il a chassé cet esprit-là, il a prié pour ça avec autorité. Il a proclamé la victoire de l'église. Il a libéré l'église par la puissance du Saint-Esprit. Et après la prière, il est parti. Chers amis, 3 mois après, les gens commencent à venir à l'église. 3 mois après, il est revenu après 6 mois, il y avait du monde à l'église. Le pasteur qui était là, il dit, mais tu as prié la dernière fois, il y avait une prière d'autorité, mais maintenant les gens arrivent ici. Mais d'où viennent-ils? Dieu a libéré l'église. Qui est devant nos églises? Bon, il n'y a pas à se poser des questions, c'est que ça se passe à ces morts ou à nos gens. Qui est devant? Il se peut qu'on fait tellement d'évangélisation, on fait tout ce qu'il faut faire, ça ne marche pas. Arrêtez un peu, revenons un peu en arrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi on n'avance pas? Qu'est-ce qui s'oppose à ce que nous voulons faire? Arrêtez un peu, cherchons le Seigneur. Ce qui est caché à nos yeux. Il y a un verset qui est de Luc chapitre 4, verset 18. Et Luc 4, verset 33-34. Deux versets que j'ai mis côte à côte. C'est Capernaum et Nazareth. Premier point. À Capernaum, il y a eu quelque chose aussi à Nazareth. Voyez ce qui se passe à Nazareth, sur votre feuille. Premier verset, ce qui se passe à Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour, par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Luc 4, verset 18. Là, ça se passe à Nazareth. Jésus arrive une fois dans la synagogue de Nazareth. On lui donne le livre d'Ésaïe pour lire. Il va ouvrir ce rouleau, il va choisir ce texte-là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour la première fois, avant de commencer son ministère, il va proclamer, il va donner son programme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer les captifs. Les aveugles vont voir. Les opprimés seront délivrés et la parole sera prêchée. C'est ce qu'il va faire. Il annonce son programme. Or, libérer les captifs, l'aveugle qui va voir, libérer l'opprimé. Mais qui lit l'opprimé? Qui rend l'aveugle? Qui rend les gens captifs? C'est Satan et les forces du mal. Jésus dit, je suis venu pour les libérer. Donc il y a un combat. Il y a des gens captifs. Il y a des chrétiens captifs encore. Des choses qui doivent être libérées de ça. Mais parfois on dit, bon, Dieu va aider. Mais attention, il faut qu'on prie pour eux. On a toujours proposé aux chrétiens, après la conversion, de prendre un temps avec les pasteurs ou les anciens de l'église, de dire un peu sa vie passée. Souvent, nous, en Afrique, on appelait ça la cure d'âme ou l'entretien pastoral. Prendre ce temps de dire au pasteur ce que j'ai fait avant. Ce que j'ai fait avant de rencontrer Jésus-Christ. C'est tellement important. Mais souvent, on n'en fait pas attention. Ah oui, je suis converti, c'est fini. Non, il y a ce que tu as fait dans le passé qu'il faut vraiment dire au Seigneur, voilà ce que je fais, priez pour moi, pour que j'en sois libéré. C'est très important. Souvent, on ne fait pas ça dans l'église. On se croit, bon, on vient avec le Seigneur, c'est fini, on n'en parle plus. Non, il y a un problème. Dire ce que j'ai fait dans le passé, c'est très important. Il y a une femme qui n'avait pas d'enfant, qui n'accouchait jamais, jamais qui a eu de bébé. Elle a fait longtemps dans sa vie conjugale, ça ne marchait pas. Il y avait un seul problème. Je les ai vus en entretien, j'ai parlé avec ce couple-là. Ils ont dit, passez, prie pour nous parce qu'on aura bientôt à voir le médecin pour faire l'insémination de ce qu'on fait. Vivre, faire notre chose pour avoir l'enfant. Ils ont fait plus de 8 ans de mariage sans avoir l'enfant. Ils n'ont jamais dit leur passé. Ils sont des chrétiens. On priait avec eux, ils sont venus me voir. On a prié une fois, on a prié deux fois. La deuxième fois, pendant que j'ai prié pour eux, j'ai prié avec autorité. Seigneur, bénis-les, ouvre la porte, fais qu'ils deviennent une famille, que la famille puisse s'agrandir. J'ai prié pour ça avec joie. Vous savez, à la fin, c'est comme si on m'arrête de parler. Ne prie plus. Pose la question du passé. J'arrête la prière. Je dis, mais excusez-moi, comment était votre temps de fiançailles? Ou votre vie, hein, maintenant que vous êtes chrétien ou avant? Ils m'ont dit, oh, parce que c'était bien, tout était OK, il n'y a pas de problème. On avait un moment génial de fiançailles. Oh, c'était formidable. Bon, j'ai dit, bon, c'était bien. Allez, on continue la prière. Je ferme les yeux. Pourquoi tu fermes les yeux? Repose la question. Oh là. J'ai reposé la question. Frère, excusez-moi, est-ce que il n'y a pas quelque chose? Il dit, mais il n'y a rien. Vous savez, c'est gênant de poser une question comme ça à des gens qui veulent te prendre un rendez-vous. C'est gênant vraiment. Alors, je dis, est-ce qu'il faut qu'on prie? La pensée revient encore. Repose la question la troisième fois. Il dit, est-ce que vraiment tu étais bien? Tout d'un coup, la femme commence à pleurer. Elle regarde son mari, elle lui dit, chérie, disons la vérité. Alors maintenant, j'ai arrangé ma chaise pour bien les regarder, les écouter. La femme a dit, il s'est passé beaucoup de choses. Qu'on n'est pas fier de ça. C'est que moi, j'ai vécu dans ma vie, c'est que je l'ai vécu. Mais le pire, quand nous sommes retrouvés, combien d'enfants sont morts? Combien d'avortements qu'on a fait? Je demande pardon au Seigneur. L'homme qui était là, il avait honte. Et il demande nous pardon, que le Seigneur puisse nous pardonner de ce qu'on a vécu. J'ai dit, mais c'est pas moi, mais c'est lui qui a posé la question. Moi, j'ai fait que ramener la question. Et puis après, chers amis, quand on a prié ce jour-là, on sentait la grâce de Dieu dans ce moment-là. Ils étaient bénis. Alors, il fallait voir le médecin pour faire l'insémination qu'on va faire dans un mois et demi. Ils ont tout préparé. Et à la fin du mois, Dieu commençait à arranger des choses. Les juifs sont partis voir le médecin pour faire le programme. Et le médecin qui m'a dit, écoutez, on va quand même t'examiner avant d'aller poursuivre le programme qu'on a arrêté. Il dit, madame, je vois quelque chose de bizarre dans ton ventre. C'est un peu bizarre. Mais il faut qu'on repasse l'examen. Reviens encore demain avec ton mari. On va qu'on voit les choses. Ils sont partis, ils sont revenus, échographie. Le médecin dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Allez encore, allez, prise de sang. Elle était enceinte. Le médecin dit, mais écoutez, ça fait longtemps que je te suis. Il n'y a pas d'espoir d'avoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme dit simplement, on sait ce qui s'est passé. Merci docteur, on est parti, on part. On sait, ils sont partis. Avec Jésus, c'est gratuit, non? Ils n'ont rien payé. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Souvent, l'homme dit toujours, si on avait su, on allait avoir déjà même 6 enfants maintenant. On n'en a que 4. Si on avait su ça, qu'il y a un seul péché qu'on a caché, que Jésus a dévoilé, nous a libérés. Amen. La vie du passé, il faut dire. Je ne dis pas venez me voir, non. Je ne dis pas ça. Voyez un frère, une sœur, avec qui tu peux parler de la vie passée, qui peut prier pour toi. Parfois, les choses ne marchent pas bien. Fais un peu une marche en arrière. Regarde ton passé. Qu'est-ce que tu as fait avant d'entrer dans cette foi chrétienne? Jésus a dit, il est venu libérer les captifs. Il y a des chrétiens captifs de choses qu'ils ont vécues, qui ne sont pas encore libérés de ça. Deuxième chose, Jésus arrive aussi à Capernaum. Il dit ceci dans le texte de Luc, chapitre 4, 33 à 34. Dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais et démoniaque. Il s'est mis à crier à une voix puissante. « Ah, qu'est-ce que tu veux de nous, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais que tu es le Saint envoyé par Dieu. » Cet homme que Jésus voit dans la synagogue de Capernaum, c'est un juif qui entend la loi chaque fois et qui vient dans la synagogue. Mais aucun juif, aucun pharisien ne l'a libéré. Mais quand Jésus est entré, il n'a encore rien dit. Cet homme commençait à réagir. Les démons commençaient à parler. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux de nous, Jésus? Es-tu venu pour nous détruire avant l'heure? Qu'est-ce que tu veux? Je sais qui es-tu. Je sais, comme disent ces démons-là, cette force, cet esprit des ténèbres. Cet homme qui voit Jésus, il commence à trembler. Chers amis, la présence du Saint-Esprit dans nos vies peut dévoiler les forces du mal. Amen. Mais votre amen n'existe pas. Amen. C'est dans la synagogue. Hein? Cet homme venait chaque fois. Mais personne ne l'a libéré. Dans les églises, aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui sont liées, qui doivent être libérées. Mais parfois, qui ne sont pas libérées. Que fait l'église? Que fait le conseil d'église? Comment le conseil d'église prie pour l'église? Comment ils voient la communauté? Je me souviens encore, un pasteur disait, dans une église, il allait prêcher souvent, il y avait une femme sorcière. Cette femme était depuis des années. Elle était aimée de tout le monde. Cet homme arrive là-bas, il prêche la parole de Dieu et il voit cette femme qui était au fond de la salle. Et il n'a pas pu résister, il était en colère. Il dit, tu es au fond de la salle. Je te dis maintenant, tu dois changer ou tu quittes l'église. Tu fais du mal à ce peuple. Tu dois changer. Ce qui était dans cette femme s'élève. Elle dit, je ne changerai jamais. Elle sort de la salle. Elle est partie pour toujours. C'est terrible ça. J'étais à Strasbourg. Je ne citerai pas l'église. J'ai prêché dans une église. Quand je prêchais, pendant que je prêchais, les gens me disaient, il y a une femme ici qui domine son mari. Elle l'impose comme si elle était plus grande que son mari. Et elle explique que la nuit n'est pas de Dieu. Dis-lui de changer. Voilà. J'ai caché la chose. J'ai dit, jusqu'à la fin, tu dois le dire. Alors, je me suis dit, quelqu'un parmi nous est une femme, elle fait ça et ça et ça. Je vais la voir à la fin de la réunion. Bon, c'est fini. Ce qu'on a prêché a terminé. Avant de partir, elle vient, c'est moi. C'est moi la femme que tu as dit. Elle pleurait, c'est moi. C'est moi. Chers amis, il y a des choses cachées à nos yeux qu'on ne voit pas. Il y a des choses cachées qu'on ne voit pas. Mais Jésus veut le dévoiler pour le bien de notre église, de notre vie. Jésus veut nous aider. Capernaum, Jésus arrive, il va libérer un homme qui était lié depuis longtemps. Quel est l'idée de l'église? Quel est le passage des églises? Que nous tous, nous puissions aider les frères et sœurs qui puissent être libres. Vraiment libres. Si votre fait, j'écris là-bas, Capernaum, une présence cachée aux yeux des hommes, une présence dévoilée par le Christ lui-même. Jésus veut libérer les hommes de la captivité. Il veut nous délier complètement parce qu'il est au-dessus de tout. Si on peut venir vers lui, nous serons libres. Voilà deux versets, Capernaum et puis Nazareth. Deuxième point, l'ignorance, champ d'action de l'ennemi. Si nous lisons Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est péri faute de connaissance. Satan veut nous garder ignorants pour pouvoir continuer à dominer. Oh, il n'y a rien. Oh, il y a quelque chose. Nous voulons voir plus loin encore la volonté du Père, qu'on puisse arriver à comprendre des choses. Sortons de l'ignorance, frères et sœurs. Cherchons à connaître des choses. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, conduis-nous. Seigneur, conduis-nous. J'ai mis là-bas sur la feuille les yeux ouverts et la sensibilité de l'esprit. Que Dieu nous ouvre les yeux. Qu'il le fasse. J'ai souvent entendu les gens me disent, écoutez, les dons de l'esprit, on n'en parle plus. Ça, c'est les actes des apôtres, c'est passé. Ça, actes des apôtres, ça, on n'en parlait plus. C'est le passé, ça. Pour moi, ce n'est pas le passé. Ces choses sont réelles encore aujourd'hui. Le malin attaque tellement que c'est maintenant que l'Église doit se réveiller. Jésus a dit, avant qu'il ne revienne, le mal va commencer à croître. Le mal grandit, l'Église est refroidie. C'est drôle. Le mal grandit, l'Église dit, écoutez, bon, c'est pas grave. Non, c'est très grave. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. Comment faire pour notre communauté, pour notre Église, pour nos frères et sœurs, pour ceux qui n'y vont pas bien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui nous ouvre les yeux et qui nous rende sensibles à sa voix, de comprendre. Jésus veut le faire. L'Esprit Saint est en action. Il va nous aider. Il va nous aider si nous cherchons sa face. Dieu va nous aider. Troisième chose, la révélation de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20, une phrase qui est là, « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour les troupeaux. » C'est grave à l'église d'Éphèse. « Quand je partirai, des loups vont entrer. » Paul voyait plus loin. À Éphèse, il y aurait des faux frères qui vont venir. Chers amis, il y a des faux frères qui peuvent s'infiltrer parmi les enfants de Dieu, qui ne sont pas des nôtres, qui peuvent entrer aussi. Des choses cachées qu'on ne voit pas. Je sais. Comment Paul savait ça? Mais par l'esprit. Quand je partirai, voilà ce qui va arriver. Est-ce que nous savons ce qui se passe? Dieu veut nous parler. Le fait d'avoir la grâce d'écouter par sa grâce, petit à petit sa voix, je l'ai pas pris du jour au lendemain. Parfois, je me pose la question, est-ce que c'est ce que veut dire que je fasse? Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Parfois, c'est difficile de comprendre sa voix. Mais Paul savait. Paul savait. Dieu sait toutes choses. Il nous appelle à regarder son troupeau. Je m'adresse aux responsables, aux leaders d'église. C'est bien d'avoir des titres, responsables, c'est bon, non, ça fait du bien être responsable. Ça fait du bien. Être leader, ça fait du bien. Avoir l'autorité à l'église, ça fait du bien. Mais réellement, moi, ça ne fait pas du bien. Si on avait de choisir entre rester membre d'église, assis sur le banc, être pasteur, j'allais choisir rester là. Là-bas, c'est la paix. Mais être celui qui va conduire un troupeau, il faut savoir là où tu vas avec eux. Là où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire? Et Satan va te chercher, toi qui connais ces gens-là. Il va te chercher. Mais le Seigneur qui nous appelle et nous soutient, chers leaders, chers responsables d'église, est-ce que vous connaissez votre église? Est-ce que vous la connaissez, cette église? On la connaît parce que c'est l'église à Saint-Maur et à Nogent et je ne sais pas où. On connaît l'adresse. Est-ce qu'on la connaît réellement, cette église-là? Est-ce qu'on la connaît? Il y a quatre questions que j'ai mises là. Est-ce que nous connaissons vraiment nos communautés? Si nous regardons cette église d'Apocalypse, ils se croyaient connaître, ils se connaissaient, mais réellement ils ne se connaissaient pas. Le Christ savait tout ce qui se passe dans ces églises-là. Deuxième question, qui attaque vraiment nos communautés? Qui attaque nos églises? Quand les gens commencent à critiquer, vous savez, quand vous critiquez l'église, vous prenez une flèche, vous lancez contre l'église. Quand vous critiquez une église, vous détruisez l'église. Tu participes avec l'ennemi pour détruire la communauté. Les critiques sont des paroles mauvaises, des flèches qui vont détruire l'église. Quand tu parles mal d'un frère, tu l'attaques réellement. Tu lui fais mal. Quand tu passes ton temps à parler mal de ta communauté, de ton église, des frères et sœurs, tu détruis la communauté. Tu ne fais pas bien du tout. C'est toi qui détruis. Tu ouvres la porte à l'ennemi d'entrer pour faire du mal. Il y a un pasteur qui disait un jour, il était à la maison avec sa femme, à 19h, il voulait prendre le repas, comme un bon français mangeait à 19h, pile. Alors, ils étaient au table pour manger, et pendant qu'il mangeait, sa femme avait un langage bizarre, il lui parlait durement. Mais l'homme dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Des paroles pas bien, mais ils étaient à table. L'homme dit, mais si je réponds ce qu'elle dit, ça va exploser ici. Le repas va finir très mal. Et l'homme sort de la table et dit, écoutez, chérie, je reviens. Ils habitaient dans une maison, il y avait son bureau à côté. Il sort, il va dans son bureau. Il se met à genoux, il dit, Seigneur, ça, ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas elle. Elle ne parle jamais comme ça quand on mange. C'est une autre chose. Il commence à prier pour ça, chasser l'esprit qui est venu troubler leur moment de joie. Il a prié après avec autorité. À la fin de la prière, il dit, bon, Seigneur, je sais que tu vas changer. Il rentre maintenant au salon, il s'assoit, il voit la femme commence à sourire. C'est chérie, ça va? Il dit, oui, ça va. De la colère à la joie, ça a changé. Des moments, c'était brusque. Il dit, oui, ça va. Il dit, oui, chérie, viens t'asseoir ici. Et ça a changé. Alors cet homme, il dit simplement, si tu vois ta femme en colère, ne te mets pas en colère. Qui est derrière? Qui est derrière ça? Si tu vois ton frère en colère, qui est derrière cette colère-là? Qui est derrière? Ta femme est en colère, toi aussi en colère. Tu vas allumer le feu. Un frère qui te critique, tu vas encore le critiquer. Tu vas allumer le feu. Qui est derrière le critique? Qui est derrière ça? Satan qui veut te détruire. Alors sois prudent. Et j'ai appris la leçon. Bonjour les mariés. Vous êtes là les mariés? N'ayez pas peur de votre mariage, non? Merci mes frères. Merci les mariés. Quand ça chauffe à la maison, ta femme est en colère, ne te mets pas en colère, tu n'arranges pas les choses. Qui est derrière ça? Parfois, vous passez une journée très bien, une journée paisible, tout d'un coup, elle se met en colère, pour rien du tout. Ne te mets pas en colère, regarde bien, oh là là, l'ennemi veut nous faire du mal. Réfléchis, tais-toi un peu, mets-toi à prier, Seigneur, je veux la paix à la maison. Et la paix va revenir. Ça, c'est le combat. Alors cet homme m'a dit, c'est un pasteur puissant qui prêche beaucoup. Il a dit, chaque fois que j'ai un séminaire, j'ai un programme important, toujours, et il se fâche pour rien. Satan me crée des ennemis chaque fois que j'ai un séminaire ou j'ai un programme. Et il a compris les risques de l'ennemi, il est prudent. Très prudent. Parfois, les enfants qui font n'importe quoi. Vous savez, dimanche matin, quand on va à l'église, tout va bien. Après, comment va-t-il? Parfois, l'enfant qui va monter dans la voiture, parfois, l'enfant qui crie là-bas, parfois, et puis tout d'un coup, on se met en colère pendant qu'on va à l'église. Ça arrive le matin, dimanche matin. Pour rien. Satan veut nous détruire, nous déstabiliser, nous enlever la paix avant d'aller écouter la parole de Dieu. Parfois pour rien du tout. Soyez prudents. Quand ces choses arrivent, ouvre les yeux, regarde en face et comprends que non, c'est l'ennemi. Dis-lui que j'étais démasqué. Tu es démasqué, tu ne vas rien faire ici dans la maison. Quand Jésus est Seigneur ici. Amen. Combien de fois les hommes se sont mis en colère? Combien de fois les femmes se sont mis en colère? Mon mari ne comprend pas. Oui, tu comprendras pas, mais mets-toi à prier et tu comprendras. Le Seigneur fera de bonnes choses. Je ne dis pas ça pour faire peur aux célibataires. Hein? Les mariés, c'est très bien. Mariez-vous, chers amis. C'est une bénédiction d'être marié. Il ne faut pas fuir. même si parfois c'est chaud, mais il ne faut pas fuir, il faut être là. Qui attaque nos communautés, qui nous divise, ce n'est pas les frères. Ce n'est pas les frères et sœurs, c'est l'ennemi qui veut nous diviser, qui veut nous séparer. Il faut savoir. Quel regard avons-nous vers celui qui nous critique? Est-ce qu'on va les haïr ou on va prier pour ça? Souvent nous haïssons, souvent nous repoussons, mais on ne prie pas. Si on peut prier pour la personne que Dieu nous ouvre les yeux, ça sera génial. Mais souvent, on ne prie pas, on le repousse et puis la personne s'en va. Troisième question, qui devons-nous combattre réellement? Qui devons-nous combattre? Ce n'est pas le frère. On nous a affiché ici le combat que nous luttons, que nous avons, comme disait le frère Michael. Ce n'est pas la chair et le sang, mais contre les forces de ténèbres et du mal qui nous font du mal, qu'il faut résister, combattre ces forces-là. Mais souvent, nous luttons contre la chair et le sang, contre les frères et sœurs. Combattons pas nos frères, combattons pas nos sœurs, combattons l'ennemi qui se cache derrière, qui nous fait mal et qui nous déstabilise. Voilà ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu, combattre. Quatrième question, pourquoi prions-nous avant les cultes en Pentecôte? Là, maintenant, je vais vous écouter. Pourquoi on prie avant les cultes? Avant les cultes ici, il y a un petit groupe qui va prier quelque part. On prie pourquoi? Je vous écoute. Vous qui priez le Seigneur avant les cultes, pourquoi vous priez avant les cultes? Et pour faire joli pour les programmes ou pour encourager? Pourquoi on prie avant les cultes? Je vous écoute, les chers responsables. Oui, frère. Merci, frère. Une autre personne, pourquoi on prie avant?
On prie pour préparer nos cœurs pour le culte.
Oui. Oui, merci. Une autre personne, vous compris.
Pour remettre les serviteurs entre les mains de Dieu, remettre les serviteurs.
Oui. Je continue, une autre personne. Vous dites, mais pourquoi il pose des questions bizarres à cet homme-là? Une autre personne, pour compris. Tout ce qu'on dit, c'est bien, c'est très bien. Pour compris. Merci. Dans toutes ces réponses, il y a deux choses. Il y a l'ennemi qui peut nous rendre distraits et que Dieu nous prépare. Il y a deux choses dans tout ce que j'ai écouté. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à la parole, il faut qu'on prie pour ça, qu'il prépare nos cœurs. Et cette prière-là, si on la fait par formalité, elle ne sera pas puissante. On doit savoir que ce qu'on va prier, souvent il y a des prières, j'appelle ça de prier 5 minutes. J'étais dans une église, j'étais invité pour prêcher. Il y avait trop de programmes et on n'avait pas le temps. Il restait à peine 3 minutes. On a dit, pasteur, viens, on va prier vite, vite, vite. Alors moi, je suis à part avec eux. On a prié rapidement. Et puis on a fini. Je me suis dit, oh là là. De prier 5 minutes. Or, préparer l'église à écouter la parole de Dieu, ce n'est pas 5 minutes. C'est le temps de remettre ce peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Il y avait un frère. Une sœur, les deux sont partis voir une église qui était à Londres, il y a très longtemps. Je l'ai vu dans un document. Il y avait un grand pasteur qui prenait cette église-là. C'est Moody. Il parle de Spurgeon. Elle arrive là-bas, et ces garçons sont arrivés à l'église, les temples étaient fermés. Et ils attendaient, ils disent, nous sommes venus très tôt. Ils attendaient qu'on ouvre les temples. Or, il voit un homme qui arrive, qui dit, mais pourquoi vous êtes là? Il dit, mais non, on attend qu'on ouvre et puis on va entrer. Il leur dit, mais non, est-ce que vous voulez visiter l'église un peu, voir un peu comment c'est ce bâtiment qui est construit? Oui, on veut visiter. Il les amène. Il entre avec lui. Il dit, mais on peut voir le sous-sol? Oui, oui, oui. Il descend le sous-sol. Il trouve une foule de gens à genoux et qui priaient. Il dit, voilà ce qui chauffe l'église. Voilà notre chauffage de l'église. Il dit, mais ils sont là depuis quelle heure? Depuis, tout automatisé, ce jour-là, en train de chauffer l'église en haut. Ceux qui prient. Et les gens qui venaient là-bas étaient bénis parce qu'ils priaient pour l'église très tôt matin. C'est pas 5 minutes. Hein. Il priait pour l'église, pour préparer les cœurs. Vous savez, quand vous priez, vous préparez les cœurs des gens. Que Dieu prépare les cœurs des gens pour recevoir la parole de Dieu, qu'il puisse les préparer à avancer. Prions bien avant, sérieusement, pour préparer les peuples de Dieu. Il y a l'ennemi qui ne veut pas qu'on écoute, mais que Dieu puisse agir. Je ne suis pas plus grand que vous, chers amis. Ne voyez pas un homme qui est extraordinaire, pas du tout. Moi aussi, j'ai mes combats, je me débrouille, j'avance par la grâce de Dieu. Je ne suis pas plus grand que vous autres, pas du tout. C'est comme un frère comme vous qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais je sais que l'ennemi n'aime pas qu'on annonce la vérité. Je sais ça. Et plusieurs fois, je l'ai vu, ces choses-là, Satan fait s'opposer à la parole de Dieu. J'ai dit ça dans mon église récemment. Je devais prêcher dans l'église de Colombes. Cette église a 2 cultes. Et le Seigneur m'a mis sur le cœur de préparer 2 prédications. Je ne sais pas laquelle il faut prendre, la première ou la deuxième. Je ne sais pas. J'arrive. C'est dans le train, j'arrive là-bas. Et la pensée de mon cœur, tu annonceras ce thème-là le premier et l'autre le deuxième. Il a fait son choix. Et j'arrive là-bas, je pensais pour le premier thème. Et le second, c'était le thème aussi. Après le second culte, à 14h, je sortais pour rentrer à la maison. Une dame qui s'approche et dit, pasteur, j'étais à la maison, j'avais un combat dans mon cœur. Je n'avais pas l'envie de venir à l'église, pas du tout l'envie. Je voulais rester chez moi. Mais au fond de mon cœur, j'ai fait comme quelque chose qui me poussait, lève-toi, va à l'église. Mais je n'avais pas du tout envie. Bon, je me suis levé quand même, je suis quand même en retard. Mais quand ça arrivait, quand j'écoutais la parole de Dieu, tout ça c'était moi. Et les choses passaient que je savais que je ne dis pas, que Dieu m'a dit, voilà ta vie. Il fallait que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette parole. Chers amis, quand elle a fini de parler, cette dame, quand elle est partie, vous savez ce que Dieu m'a dit? Cette parole, c'était pour elle, ma fille. J'ai voulu lui parler par cette parole. Chers amis, tout un travail qui est pour elle. Parce que Dieu l'aime. Amen. Dieu l'aime. Et quand j'ai compris que Satan veut nous détruire, mais Dieu veut nous libérer. Elle était libérée ce jour-là. Mais il fallait qu'on prie pour ça, que Dieu puisse se manifester, toucher son cœur. Prions pour l'Église. Il y a un opposant à la prédication. Je connais une église que je vais de temps en temps. Il y a longtemps, l'année dernière, souvent quand je prêchais là-bas, quand je mets debout, là où j'étais assis, là où j'étais pour prêcher, j'avais des fourmis sur mes jambes chaque fois. Je dis, mais quand je descends là-bas, c'est fini. Quand je monte ici, mais j'ai des fourmis. Je dis, mais c'est quoi cette église-là? Et c'est souvent comme ça. Alors, je dis un peu, mais il dit, votre église est compliquée. Là-bas, mais c'est compliqué quand on monte là. On a des fourmis aussi, les gens, mais ça ne va pas. Il me dit, non, non, c'est toi qui penses comme ça. Il dit, bon, ça va. Et c'est la même chose, chaque fois, la même chose. L'ennemi s'oppose à la prédication. Un jour, un frère a dit, j'ai prié, j'ai vu quelque chose devant là-bas. Et devant cette chair, il est fortement devant la chair là-bas. J'ai dit, ça y est, au moins nous sommes 2 maintenant. Une fois, j'ai dit, je suis venu là-bas, dans cette église, avec un frère. Je dis, est-ce qu'on peut prier avec toi aujourd'hui, même s'il n'y a pas culte? J'ai appelé un frère, on a prié pour ça. On a prié pour ça. Et en fait, le dimanche, quand je suis venu, tu étais OK. Il n'y en a plus. Mes jambes sont bien. Qui s'oppose à la prédication? Qui s'oppose à la parole de Dieu? Vous savez, ici, cet endroit est sanctif et particulier. Et ici, on dit la vérité. Satan s'oppose ici. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? C'est ici. Ici, ce n'est pas la gloire ici. Il y a des gens qui aiment venir ici. Venez, il y a de la place. Hein? Il y a des gens qui veulent venir ici. Ce n'est pas la gloire ici. C'est un combat pour transmettre la vérité. Et j'ai compris que certains ne voulaient pas qu'on vienne là-bas. Et depuis ce jour-là, cette église a commencé à avoir une dimension de grâce. L'ennemi nous crée des ennuis. Mais à la croix, il était vaincu. Amen. Nous avons la victoire à la croix. Tournez votre feuille, chers amis. On va arriver bientôt au temps de questions et réponses. Quelle compréhension de 1 Pierre 5, verset 8. En cette matinée, c'est là qu'on introduit ces programmes de combat spirituel. Ça va aller en profondeur. C'est tout samedi prochain. Là, on va toucher des choses dans la réalité. Comment enlever la délivrance? Comment comprenons-nous 1 Pierre 5, verset 8? Le verset est là. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Quel verset ? Juste des questions, première question, quelle est la cible visée par le diable ? Quelle cible ? Quel est son champ d'action ? Qui peut connaître la personne qui sera dévorée ? Ah, qui connaît ça ? Y a-t-il quelqu'un autour de vous, un proche, qui vit cette situation ? Pierre écrit ça et dit, soyez vigilants, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui va dévorer. C'est clair, quelqu'un sera dévoré. Mais comment le voir ? Le diable rôde à nos gens, il rôde à ses mots, il rôde à votre vie, cherche qui ? Qui va dévorer ? Qui va détruire ? Satan cherche qui va détruire. Est-ce qu'on sait qui est ciblé ? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il va faire ? Comment il va à faire son action ? Est-ce qu'on sait ? Et je suis la cible de l'ennemi ces jours-ci. Que l'Église se réveille un peu, voir, mais comment on va faire ? Satan cherche qui va détruire ? Qui va humilier ? Qui va briser les cœurs ? Il cherche qui va dévorer. Chers amis, cherchons la face de Dieu. Voilà les choses cachées à nos yeux qu'on ne voit pas. Il y en a tellement beaucoup. Il rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Quand un frère s'affaiblit, quand un frère ne vient plus, ne le critiquez pas. Ne le critiquez pas. Priez pour lui simplement, car le combat est là. Le chemin est long. On n'est pas des vainqueurs tout le temps, tout le temps. Parfois on tombe, mais priez pour le frère qu'il avance aussi dans sa foi. Souvent, nous mettons en position de force. Moi, je sais. Moi, je peux faire plus que ça. Non, c'est malheureux de dire ça. Nous tous, nous devons combattre. Qui est la prochaine personne que Satan veut chercher à détruire ? Mais que Dieu nous éclaire. Parfois, il t'arrive, tu dors la nuit, tu te réveilles. Voilà le combat qui va arriver à un frère. Prie pour lui. Prie pour lui. Je ne dirais pas. Parfois, j'ai vu de beaucoup de frères des choses qu'ils ont vécues. Je les ai avertis avant. Dieu les a libérés. Ça m'a donné plus de joie. Quand Dieu les a libérés. Je vous dis des choses que moi, je vis réellement. Quand on était au Sénégal, cette femme qu'on a vue là-bas qui a déclenché tous ces programmes, elle était possédée. Avant même qu'on commence à prier pour elle, avant que les démons commencent à se manifester, je le savais. Je n'ai pas voulu faire paniquer l'équipe. Je regardais, bon, elle est là au Sénégal, bon, Dieu va l'aider un jour. Je n'ai pas voulu provoquer les tensions au niveau de l'équipe. Et je regardais que cette dame, c'est compliqué sa vie. Et j'ai prêché la parole, c'était un soir. Pendant que j'exhortais, je la regardais, je voyais des forces de moi qui l'ont entourée comme ça. J'ai dit, bon, le Seigneur sait lui-même comment il va la libérer. J'aime pas embêter les enfants de Dieu. Et après la prière, on m'a dit, bon, et ce qu'il nous a dit, vous pouvez prier pour elle parce qu'elle ne se sent pas bien. Et on a commencé la prière, elle était tombée par terre. Je n'ai pas tout dit les détails de ce qui s'est passé. Voilà un détail. Et pendant qu'on fermait les yeux, pendant qu'on priait, et je voyais réellement cette femme enchaînée, vraiment enchaînée complètement. Elle était sous contrôle des forces du mal. Les chaînes l'avaient liée. Et toutes nos prières tombaient sur ces chaînes et ne faisaient rien. On priait, mais ça tombait sur ces chaînes et ne faisait rien. Les chaînes ne se brisaient pas. Alors j'ai dit, mais c'est quoi ça ? L'équipe sait. J'ai dit au fond, Seigneur, si tu ne la libères pas aujourd'hui, si nous la laissons comme ça, c'est grave. Libère-la. Tout d'un coup, mes yeux sont ouverts de voir, regarde les chaînes qui sont là. Pour la première fois, les gens m'ont entendu prier en langue. J'ai prié en français de ma façon. Et tout d'un coup, une parole est venue dans mon esprit en langue, avec puissance, autorité. Je voyais descendre comme une épée sortir dans ma bouche. Cette épée descendait et cassait toutes les chaînes. Et je la voyais libérée. Et tout d'un coup, elle était libérée complètement. Elle était relevée. Les yeux sont ouverts. Et j'ai compris. Elle était ciblée par le malin pour la détruire. Mais quand on a terminé, Le lendemain, elle a fait la même crise aussi, parce que là, c'était l'oppression de l'ennemi. Et quand on est parti pour prier pour la deuxième fois, et pendant qu'on priait pour elle, j'ai vu devant, il y avait deux pasteurs avec moi, on priait avec elle, et là, je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit ici, par la grâce du Seigneur, j'ai vu un esprit debout devant elle, disait, si tu parles encore de Jésus, tu verras. Et j'ai dit au pasteur, on va dire à la sœur de proclamer que ma vie appartient à Jésus-Christ. Il faut que le proclame pour qu'elle soit libérée totalement et complètement. Alors, on a répété cette parole dans 2 Corinthiens et dans Colossiens 2, 15. Que Jésus a dépris de domination des autorités, les a livrés en spectacle publiquement. Elle a répété ces paroles. Pendant qu'elle répétait, cette force partait. Et elle a répété que mon âme appartient à Jésus-Christ. Elle commençait à être libérée. Et puis, elle était libérée complètement. Chers amis, quelqu'un peut être détruit si nous ne prions pas. Prions le Seigneur qui nous aide. J'aimerais que Dieu vous donne tous la grâce de discerner ces forces du mal. Qui vous éclaire, chers amis? Je sais, je suis dans une église baptiste. Ici aussi, c'est baptiste, c'est non? Mais de la façon. Chez les baptistes, les dons de l'esprit, on n'en parlait pas, c'est dangereux. Au fait, moi, je ne suis ni baptiste ni pentecôtiste. Je suis simplement une personne qui aime la parole de Dieu. Parce qu'ici, on n'écrit pas baptiste et pentecôtiste. On n'a pas écrit ça. Si on avait écrit, j'allais choisir, mais ce sont les hommes qui ont fabriqué ça. Baptiste et pentecôtiste. Ici, il n'y a rien du tout. Comme il n'y a rien du tout, je ne suis ni baptiste ni pentecôtiste. Parce qu'il faut être affilié quelque part. Bon, je suis affilié, je suis baptiste. Mais en réalité, je ne suis pas baptiste ni pentecôtiste. J'aime cette parole. Et je comprends ici que l'Esprit Saint doit être avec nous pour nous guider. Pour nous orienter, chers amis. On ne peut pas lire la parole sans le Saint-Esprit, non. On ne peut pas. Ça se marie ensemble. L'Esprit parle, l'Esprit révèle, l'Esprit fortifie. Laissons l'Esprit Saint nous parler et nous guider. Dieu parle encore aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai, Dieu parle encore aujourd'hui. Mais que nous tous puissions nous donner entièrement, Seigneur, dis-nous, montre-nous. Il va nous révéler les choses, il va nous conduire pour qu'on soit en paix. Dieu est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort au cimetière là-bas en Israël. Christ est ici avec nous, il parle aux hommes, aux femmes aujourd'hui. C'est vrai, on est baptiste, oui, en titre, mais on n'est pas baptiste. On est des enfants de Dieu liés à la parole du Seigneur, telle qu'elle est écrite. Nous l'acceptons et nous la pratiquons. Amen. Pratiquons cette parole. N'écoutons pas ce que les gens racontent. Ah, nous les baptistes, on ne fait pas ça. N'écoutez pas ça. Suivez la parole de Dieu. Que dit la Bible? Que dit la Bible? J'avais un prof qui me disait toujours, toi tu penses beaucoup dans l'esprit, c'est pas juste. Ça c'est l'ancien âge, j'ai écouté, c'est toi, moi c'est moi. Il m'a donné 3 sur 20. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Mais je n'abandonnerai jamais ce que je crois. C'est écrit sur noir sur blanc. Nous aurons l'Esprit Saint, il va nous conduire dans toute la vérité. C'est la Bible qui le dit, non? Je crois, ça c'est tout. Ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La parole de Dieu. Croyez à ça, chers amis. Et le Christ va nous aider à aller plus loin. Il y a tellement de choses cachées qu'on ne sait pas. Jésus veut nous révéler les choses. L'Église doit être une Église forte. Souvent, elle est affaiblie par nos théories qu'il faut que nous détruire et nous refroidir. J'écoutais des gens prier un jour dans un groupe. Les gens qui priaient, moi, je priais avec eux. Et pendant que les gens priaient, le Seigneur me disait, mais quelle prière! J'ai dit, Seigneur, cette histoire ne me concerne pas. Tu parles à chacun pour qu'il prie comme ça. Si j'ai dit ça, ça va chauffer. Mais des prières, tu es froide. Seigneur Jésus, nous sommes là avec toi. Aide-nous parce que tu nous aimes beaucoup. Fortifie-nous. Mais c'est quoi cette prière devant un combat? Il faut qu'il faut hausser le ton parfois. Ce n'est pas écrit ici. Africain, chinois, martiniquais, français, ce n'est pas écrit ici. C'est écrit ici, enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu. Oui, c'est vrai. Avec culture, avec nos, bon, on a nos cultures à nous. Vous savez, un chinois est calme. Un africain, bouillant. Mais ici, on n'a pas dit africain bouillant et chinois sois gentil. On n'a pas dit ça. On a dit les enfants de Dieu qui vont se lever comme une armée qu'on a chantée ici. Mais qu'est-ce que l'armée qui prie pas? Qu'est-ce que l'armée qui prie au Seigneur Jésus? Nous sommes là, non? L'armée doit se lever et parler avec autorité. Nous sommes des soldats. Amen. Je veux un amen fort quand même, frère, cher frère. Nous sommes des soldats. Amen. Qui est soldat de Jésus-Christ? Tu es soldat de Jésus-Christ. Amen. Et ne baisse pas tes bras. Tu es soldat du Christ. Lève-toi. Tu es un soldat. Ne dis pas, ah, oh, c'est africain, c'est chinois. Non, pas ça. Au ciel, il n'y aura pas des chinois, d'abord des africains. Il y aura des enfants de Dieu. Hmm? Enfants de Dieu au ciel, bénis par le Seigneur, remplis du Saint-Esprit que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. On a chez une parcelle, nous, à la grâce, merci Seigneur, à Noisy-le-Grand. Souvent, je vais là-bas tout seul, je regarde un peu le terrain, un grand terrain, 2000 mètres carrés, c'est beaucoup, chers amis. Souvent, quand j'arrive là-bas, j'ai une grande joie. Et une fois que j'arrive là-bas, j'ouvre la porte, j'arrive, j'ouvre la parcelle, quand j'entre, quand j'y entre, clairement, n'entre pas dans ces bâtiments, va derrière. Et j'ai regardé le terrain, j'étais tellement émerveillé. Alors il me dit, proclame une parole pour cet endroit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? J'ai dit, ça y est, merci Seigneur. Je veux qu'il y ait une foule de gens venir ici. Pendant que je priais, à côté de l'arbre qui est, vous dépassez les pommiers, l'arbre qui est à côté là, j'étais à côté, je sentais mon cœur, tout le monde frissonner, de la tête aux pieds. Seigneur, envoie des gens ici. Je ne sais pas si les voisins m'entendaient. J'ai crié tellement fort que c'était bizarre. Et j'ai prié pour ça. J'étais content. Après, il me dit simplement, fais le tour de cette parcelle, de ce terrain. Fais le tour. Bon, vous savez, là-bas, il y a de l'herbe là-bas. Je dis, et si un serpent sort là-bas? L'herbe est ici, oh, ce jour-ci. Je dis, ah, si je vois un serpent là-bas, comment je vais faire? Bon, j'ai quand même fait un tour. Seigneur, que cette terre soit pour toi. Soit pour toi. Acheter une église, c'est bien. Mais le combat va s'élever contre nous. Il faut résister. J'ai fini par ce verset, par cette parole. Ne devons-nous pas réfléchir quand l'un de nous s'éloigne de la vérité ou affiche un comportement qui trahit nos valeurs fondamentales de la foi? Ne devons-nous pas réfléchir quand un frère s'en va? Le dernier verset, délivre ceux qui l'entraînent à la mort et ceux et sauve ceux qui vont chancelant au supplice. Car si tu dis je ne savais pas, celui qui sait ce qui se passe au fond de cœur, ne discerne-t-il pas lui? Oui, celui qui protège ta vie le sait. Il rendra chacun selon ses actes. Dans le contexte de ce verset-là, dans Proverbe, c'était pour ceux qu'on entraîne dans le faux jugement qui vont mourir. Mais si nous prenons ça pour nous aujourd'hui, c'est que Satan veut entraîner à la mort. Délivrons-le. Aidons-le pour qu'il soit libéré des forces du mal. Délivrons ces personnes. Nous avons le pouvoir en Jésus-Christ. Amen. Vous avez des questions à poser avant qu'on prie, qu'on ait la pause? C'était trop rapide et trop de choses parfois dures, parfois qui vous ont chauffé un peu la tête. Mais il faut dire la vérité, il faut la dire, il ne faut pas la garder. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Si vous avez tout compris, merci Seigneur. Vous êtes génial. Oui?
La chrétienne que tu as délivrée au Sénégal, je l'ai vue après. Pour toi, est-ce que là, avec les deux prières, elle est complètement délivrée, elle peut retomber dedans?
Oui. Si, parce qu'elle avait une bague à la main. Vous savez, elle avait une bague là-bas. Oui. Cette bague, c'est moi qui lui ai donnée. Dans cette bague-là, cette bague, il y a un trou à l'intérieur. Ah oui. Et souvent, chez les Sénégalais, on met quelque chose dedans. Et cette bague-là, c'est une fête des marabouts.
Oui.
Et du coup, on leur a dit de ne plus remettre ça. Mais c'est ça, ce qui fait qu'elle était sous pression des forces des ténèbres. Oui. Mais maintenant, elle n'est plus possédée, mais elle était sous pression chaque fois. Elle peut être possédée parce qu'au moment donné que Jésus est dans sa vie, il pourra plus être possédé. Mais elle est sous pression. Mais le problème, c'est qu'elle ne veut pas enlever cette bague-là parce qu'elle a peur de son mari. C'est là le grand problème. D'accord. On a dit à la sœur Kate de dire qu'en tout cas, d'abandonner cela. Ça serait bien pour elle.
D'accord, oui, c'est ça quoi. J'ai posé de la aider un peu, dont j'ai parlé de la sainteté, vraiment sanctification. Vraiment repentie et tout. Après, à chaque fois qu'elle rentre dans le centre de santé, on enlève sa barre, mais quand elle repart, elle remet la bague. Et alors, elle m'a dit, pendant, on a posé la question, Crête veut savoir, pendant ses années de possession, est-ce qu'elle sentait quelque chose en elle? Elle a dit non, mais il y a deux choses. Elle est dégoûtée carrément de la Bible. Donc, elle a oublié la Bible et elle se sent très fatiguée. C'est deux choses qu'elle a. Et là, récemment, Crête, j'ai encore communiqué avec Crête. Elle m'a dit que, de nouveau, elle dit qu'elle est très fatiguée. Donc, peut-être un signe encore qu'elle est plus encore dedans.
Prions pour elle. Il y a des choses qu'elle m'a dites la dernière fois que je ne pourrais pas dire ici, mais qu'elle doit prendre des décisions fermes par rapport à sa vie conjugale. Mais on doit prier pour elle, que Dieu puisse la libérer complètement. Mais elle n'est plus possédée, elle est sous pression de l'ennemi. Et c'est triste quand on ne veut pas lâcher quelque chose que Dieu demande d'abandonner. Prions pour elle. Est-ce qu'il y a une autre question?
J'ai une question, Kingston. J'ai une vision de chrétiens qui vont dire « Ok, tout ce qui est combat spirituel, tout ça, ça n'existe pas, j'y crois pas. Les forces des ténèbres n'ont pas d'emprise sur nous. » Et j'ai une autre vision où il y a des chrétiens qui vont dire « Tout est lié au démon, à Satan. Je me blesse, je rate quelque chose ne va pas dans ma vie, je me mets en colère. Tout est lié à ça. Tout est lié à un démon. » Quelle est la bonne position à avoir entre ces deux extrêmes? Je prends volontairement deux extrêmes, deux positions extrêmes. Quelle est la bonne position à avoir, entre guillemets, s'il y en a une? Et comment, ensuite, à travers cette position, travailler son discernement?
Merci, frère. Après ces temps de messages d'aujourd'hui, qu'on aura ce séminaire aujourd'hui et le samedi prochain, ce n'est pas qu'à la fin, je vois des démons partout. Non. Non, non, ce n'est pas ça. Quand ça ne va pas, ce sont des démons qui me font du mal. Non. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous devons avoir un discernement, discerner les choses. Il faut un discernement vraiment. Si c'est moi-même qui me cause des ennuis, ou c'est le malin qui fait ça. Il faut discerner. Les extrêmes, on se ramène au milieu, discernement. Discerner qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Parfois des choses normales, naturelles, où il n'y a rien de force du mal. Ça arrive. Une femme a des tensions toujours 22, pas de 19, 20 chaque fois. Et elle a pris tous les médicaments possibles. C'est normal parce que quelqu'un peut avoir de la tension, oui. Mais elle a dit un jour, ça suffit. Il faut que j'aie compris pour moi. Je ne comprends pas. Elle prend des médicaments, ça ne baisse pas souvent. Elle voulait seulement compris pour elle. Chers amis, on a mis la langue de prier, on a prié pour elle. On a demandé de se guérir parce que cette tension continue. On a prié pour un frère qui était là, à le don des esprits. Et lui, quand il voit un esprit avec une pompe derrière. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Et cet esprit, s'il veut, il fait qu'il pompe comme ça, et la tension monte. Et quand il m'a dit ça, il dit, mais c'est quoi un esprit avec une pompe? C'est bizarre ce que tu racontes d'un frère. Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, bon, ça va. Si la vie est comme ça, on va chasser l'esprit que tu as vu, et puis elle sera libérée. Il dit, frère, faisons-le. On a prié avec autorité. On a terminé, il n'y avait rien du tout. Elle est partie à la maison. La nuit, elle a bien dormi. Une semaine, deux semaines, elle vient nous voir. Il dit, mais je me sens parfaitement bien. Elle va chez le médecin, il dit, mais madame, ta tension est tout normale. Il dit, mais tu as pris des médicaments? Il dit, non, je n'ai rien pris. Ça fait deux semaines que j'ai pris des médicaments, mais je me sens mieux. Il dit, mais non, prends des médicaments. Il dit, non, Jésus m'a guéri. Voilà ces cas-là. Il faut discerner simplement. Il y a ceux qui voient que des démons partout, c'est dangereux. Il y a ceux qui disent que les démons n'existent pas, c'est dangereux, mais il faut rester au milieu. Donne-nous, Seigneur, ton discernement à toi. Qu'est-ce qu'il y a de tout ça? S'il n'y a rien, il n'y a rien. Souvent, quand on a mal à la tête, on se dit simplement, ah oui, il faut prendre de l'oliprane. C'est normal de prendre de l'oliprane. Un pasteur que je ne dis pas le nom ici, un jour, il prêchait, disait, Dieu l'amène à un de ses amis, il dit, écoutez, viens prier pour mon cousin, il est païen, mais il est à l'hôpital. Il a du mal à la tête. Il dit, mais prenez de l'oliprane, c'est pas grave. Il dit, on a tout pris. Bon, le pasteur est parti avec lui, mais il n'était pas content d'y aller, ils sont partis. Ils arrivent là-bas, et ils voient la personne, il me dit, bon, jeune homme, répands-toi quand même, non? Il a parlé durement. Il dit, bon, Jésus t'aime beaucoup, mais répands-toi. Mais les garçons regardaient pour lui, ils regardaient sans sentiment de je les ai donné. Alors le pasteur s'approche devant lui, il lui pose la main. Il dit simplement, esprit de ténèbres, sors de ce corps. Il chasse l'esprit mauvais. Il n'est pas croyant cet homme-là. Il demande à Dieu qu'il puisse le guérir. Les garçons, qu'est-ce qu'il va dire? Pendant que tu priais, comme si on me faisait entrer des épines à l'intérieur de ma tête, on délogeait des choses bizarres dans ma tête. Je sentais comme un feu dans ma tête. Le pasteur ne sentait rien, il priait simplement. À la fin de la prière, c'est comme s'il était dans une douche, l'eau froide l'a envahi. Il dit, parce que je me sens bien, j'ai plus mal à la tête. Il dit, bon, merci Seigneur, réponds-toi maintenant. Le pasteur a prié pour lui, cet homme est devenu chrétien. Les deux lupins n'ont rien fait. La perfusion n'a rien fait. La prière l'a libéré. Donc, on ne voit pas des mots partout, mais il faut discerner. Il faut discerner les choses quand cela arrive. Et ces jeunes hommes, il est chrétien. Et s'il fallait qu'on ait par ce traitement, il allait finir à la tombe. Mais Jésus l'a libéré par une prière d'autorité de ce pasteur-là. Du coup, il faut discerner simplement. Un bon discernement peut arranger des choses. Oui, il y a des églises qui voient des démons partout. Il y en a beaucoup dans ce monde ici. Il ne faut pas suivre ça. Il y a ceux qui sont passifs. Pour nous, ça n'existe pas. C'est dangereux aussi. Discerner ce qui se passe. Discernement, c'est important de discerner. Et demander au Seigneur, éclaire-nous de ce que nous voyons. Éclaire-nous, Seigneur. Une personne veut se suicider, il m'appelle au téléphone. Parce que je n'ai pas de travail, j'en ai assez. Tout ne marche pas, je vais mourir. Je dis, bon, quel jour? Mercredi. Bon. J'ai dit au rendez-vous, je suis parti la voir. Elle me dit, Emma, il a tout fait, tout arrangé. J'ai dit, bon, mercredi, à quelle heure tu vas mourir? Il dit, ça sera vers le soir. Bon, j'ai dit, est-ce que tu peux donner le temps d'expliquer un peu après la mort, ce qui va arriver? Oui, tu vas expliquer. Elle avait un cœur fermé. Elle attendait que je puisse dire oui, Seigneur, prends-la. Au moins, j'ai dit non. J'ai expliqué la bonne nouvelle. Pendant que j'ai expliqué la bonne nouvelle, j'ai compris que non, elle est possédée par les forces du mal. Elle s'est prétendue chrétienne. J'ai dit, est-ce qu'on peut reprendre un peu Jésus dans ta vie? Elle dit, oui, on peut reprendre. Je lui ai expliqué la bonne nouvelle. Et je lui ai expliqué, oui, elle a compris. Il dit, bon, est-ce que tu veux que Jésus soit ton Seigneur? Oui. On a prié avec elle, on a terminé. Je lui ai dit, ben, est-ce que tu veux? Tu maintiens la mort mercredi? Je vais voir. À la dernière prière, quand je priais pour elle, elle commençait à se manifester. Les démons commençaient à parler dans sa vie. J'ai dit, ça y est, quand on a chassé l'esprit impur, et tout est venu en ordre. Je dis, ben, est-ce que mercredi, tu vas encore partir? Il dit, non, parce que je vais pas mourir. Je vais vivre. Aujourd'hui, elle travaille déjà. Elle a eu son travail. Et quand tu m'as annoncé, parce que j'ai annoncé une bonne nouvelle, je dis, mais attends, ce n'est pas encore la mort. Il dit, non, une bonne nouvelle. J'arrive, il dit, j'ai réussi un bon travail. J'ai béni Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Merci Seigneur. Maintenant, elle vit. Elle a de l'argent pour vivre maintenant. Elle travaille. Si j'avais dit simplement, ah, débrouille-toi. Aujourd'hui, elle serait déjà au cimetière. Elle avait tout préparé, hein? Tout préparé de partir. Et l'heure exacte qu'elle allait faire l'acte de suicide. Alors je lui ai dit, tout ce que tu as préparé, détruis-le. Car la grâce de Dieu est sur toi. Il faut discerner, cher frère Michael. Si nous ne discernons pas, c'est difficile. Il faut discerner ce qui est derrière. Il faut discerner. Si quelque chose traîne, mettons-nous à genoux, cherchons la face de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Amen. Bon, on a eu deux questions. On aura, oui.
Bonjour. Oui, j'ai deux petites questions. Est-ce qu'un enfant de Dieu, bien quelqu'un qui a donné sa vie au Christ, peut être habité par un démon?
Non. Donc, il peut pas. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il peut pas entrer là. Il peut être sous pression de ténèbres, de force du mal, mais pas être possédé par le démon de force du mal.
Juste une petite parenthèse par rapport à ça, c'est qu'il y a des églises où les gens ils arrivent, il a donné sa vie au Christ, et c'est bon. Après, il passe par la délivrance.
Ça peut arriver parce que quelqu'un qui a vécu des choses passées dans sa vie passée, des choses pas bien, c'est que j'avais dit, il faut que tous d'abord les responsables de l'Église de prendre un temps d'entretien et qu'ils vont prier pour qu'ils soient libérés de ce qui s'est passé là-bas. C'est ça qu'il faut faire. C'est très important. Et parfois même quand vous priez pour quelqu'un qui est possédé, qui est non-croyant, qui arrive en Jésus ce jour-là, quand le Christ entre dans sa vie, parfois ces gens tombent par terre. Comment ça fait des situations terribles? Parce qu'il y a deux forces qui vont être en conflit. Et c'est favorable et c'est intéressant de prier pour la personne de l'entretien pastoral et ça serait mieux.
Une petite dernière question. C'est ma difficulté à moi, oui. Après je ne sais pas pour les autres, d'évangéliser ses proches. J'ai toujours cette difficulté. J'espère bien qu'il n'y a que moi qui a ce problème. Et si vous avez le problème, donc il faut qu'on pose la question pourquoi. C'est un peu difficile d'y aller vers ses proches, vers ses parents, ses frères, son ami intime, de lui annoncer directement la bonne nouvelle comme une épée et on ne se soucie pas d'autre chose.
On peut demander au Seigneur la grâce qu'il puisse toucher leur cœur, qu'il nous donne l'occasion et le temps favorable pour lui parler avec des mots simples parfois, et que Dieu touche le cœur, qu'il ouvre le cœur. Parfois, il y a aussi l'esprit d'incrédulité qui peut agir. Ou la personne est liée par cet esprit d'incrédulité qui s'oppose à l'évangile. Ça peut arriver aussi, mais de demander que Dieu puisse toucher le cœur, de prier pour eux. Si on ne peut pas parler, mais la prière peut traverser les montagnes, peut briser les barrières et atteindre la personne. De prier vraiment pour eux. Dieu peut faire des choses comme ça. Il y a des gens que j'ai connus qui n'étaient pas prêts pour l'évangile, mais après des prières aussi longtemps, un jour, la porte s'ouvre. De prier, de pousser l'esprit d'incrédulité et l'esprit d'opposition. Et Jésus a ouvert la porte et la personne est venue. Ça peut prendre du temps, mais c'est lui qui fait tout ça. C'est le Seigneur. C'est un grand souci aussi pour nous tous, nos proches qui ne connaissent pas. Moi, j'ai mes proches qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais il faut vraiment que le Dieu lui seul fasse grâce.
Après moi, je parle beaucoup plus de la difficulté de nous-mêmes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a cette difficulté de y aller leur parler. C'est pas parce qu'eux, ils n'acceptent pas. C'est que nous, comment on appelle ça? On va des fois sur la pointe des pieds
la crainte.
Pour parler à nos proches. On a cette difficulté à parler, c'est par rapport à ça.
Alors, cette difficulté, moi, j'ai répondu ça comme ça. Si le proche, imagine-toi, meurt aujourd'hui, tu sais qu'il ira en enfer, et ça te réjouit. J'ai vécu ça. J'avais un proche, un ami, que j'aimais vraiment. Je n'ai jamais parlé de la bonne nouvelle. Et ce jeune homme-là, je le connaissais. Et un jour, il est venu chez moi à la maison. C'était en Afrique. Je lui ai parlé un peu, écoutez, le Seigneur a besoin de toi. Ce n'était pas aussi fort que ça. Et puis après, quand il est parti, dans mon cœur, je n'étais pas en paix. J'ai dit, mais il va encore te parler, reviens. Il m'a dit, oh, on verra la prochaine fois. Et quand il partait, au fond de mon cœur, on me disait, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus jamais. Je ne comprenais pas cela quand j'étais encore jeune, converti. Je ne comprenais pas cela, tu ne le verras plus. Et ce qui est bizarre, et quand ce jeune homme est décédé, j'ai appris qu'il est mort. Et je voulais aller à ses obsèques. Et c'était le soir. Souvent, chez nous en Afrique, le corps sort la journée, on le garde toute la nuit, et le matin, on voit l'enterrement. J'allais le soir pour assister. Pendant que j'ai préparé pour aller, au fond de mon cœur, me dit toujours, pourquoi tu veux aller là-bas? Pourquoi tu veux aller là-bas? Il n'est pas là. Il n'est plus là, il est parti. J'ai eu le temps de lui parler sérieusement de la bonne nouvelle. Tu ne l'as pas fait sérieusement. Et maintenant, regarde. Pourquoi tu veux aller? Et ça m'a chauffé dans la tête. Cette histoire m'a aidé à prendre des décisions pour parler de Jésus aux autres. Si je pense à ça. Si ton proche est vivant aujourd'hui, quand il va mourir, tu vas aller à ses obsèques, non? Il ne sera pas là. Imagine-toi ton ami, tes proches, tes frères et sœurs, tes cousins, cousines. Maintenant, il est déjà en route vers la mort, spirituellement. Mais si tu peux lui parler, tu vas le sauver. Fais ta part. C'est ce point-là qui m'a réveillé un peu pour parler de Jésus-Christ aux autres. Ce n'est pas nous qui changeons les gens, mais le Seigneur qui fait ça lui-même. Faisons notre part à nous. Dieu fera sa part à lui. C'est lui qui va changer les cœurs. Ce n'est pas joyeux d'aller dans un deuil où quelqu'un est parti, dont on savait qu'il fallait apporter de bonnes nouvelles, on est en train de pleurer. On pleure pour quoi? On pleure pour sa chair ou pour son esprit qui est parti? Quelles sont nos larmes? Parce qu'un frère qui est parti, ou c'est l'enfer tout droit pour la personne? C'est ça. Comment peut-on définir nos larmes quand quelqu'un meurt? C'est ça qu'il veut voir. Il est 11h38. Est-ce qu'il y a encore une question avant qu'on termine pour voir qu'on ait la pause rapidement? Oui.
Et aussi pour l'Église. En fait, moi de mon côté, je prie énormément en fait pour les gens de ma famille. Et en fait, notamment ma sœur, il y a quelque temps, donc elle n'est pas, mais elle connaît beaucoup la Bible, mais c'est plus de manière intellectuelle, mais elle ne vit pas sa foi. Et en fait, je prie énormément pour ma famille. Et une fois, elle s'est réveillée un soir vers 4h du matin. Elle n'a pas osé m'appeler. Et en fait, donc elle m'a dit ça après coup. Et elle m'a dit, oh là là, Sabrina, je me suis réveillée dans la nuit. J'ai sué comme jamais j'ai sué de ma vie. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, en fait, j'ai plus cauchemardé, mais de la fin des temps. Et tout ce qu'elle m'expliquait dans les moindres détails, c'est ce qui est vraiment indiqué dans la Bible et dans l'Apocalypse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tard, elle refait un rêve du même type, exactement, enfin quasiment similaire. Et elle me dit « Ah, j'ai re-rêvé de ça ». Bon, et après, là, ça m'a permis, en fait, d'avoir une porte ouverte pour ma sœur et de lui dire, tu vois, là, déjà, t'as eu un premier rêve. Et on a pris du temps, j'ai pris 2 heures de mon temps pour lui expliquer, pour ouvrir la Bible et lui dire, voilà, t'as tout ce que tu m'as dit. Elle avait des termes très précis. Elle avait, par exemple, le livre de vie, les grincements de dents, toutes ces choses-là, elle les a vues, en fait, dans ce rêve qu'elle considérait à la base comme un cauchemar. Elle m'a dit, j'ai eu très peur. Et je lui dis, à partir de ce moment-là, en plus, le rêve se répète. Je pense que tu dois prendre une décision, en fait. C'est pas le cas à l'heure actuelle, mais je prie énormément pour elle tous les soirs depuis peut-être 10 ans maintenant. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a une connaissance récemment, en fait, de ma sœur très très proche, qui a dit, oh, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus dans la rue. Et du coup, ça a interpellé aussi ma sœur. Il y a des gens, enfin, je vais pas m'exprimer sur tous les membres de ma famille, mais il y a des choses qui se passent au travers de ma famille. Pas par moi directement, mais il y a des choses qui se passent. Ça peut être à travers des rêves. Ils rencontrent des gens qui vont parler de Dieu. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai une famille du côté de ma mère qui est musulmane. Et du coup, et quelqu'un qui a toujours raison, surtout à un moment donné, il me parlait de Jésus. Il me dit, on fête l'anniversaire de Jésus parce que c'est un musulman. Et là, je me dis, je ne peux pas laisser passer ça. Et j'ai dit, Jésus n'était pas musulman. Et c'est, d'ailleurs, c'était le roi des Juifs. Bon, là, à ce moment-là, les gens se sont tous retournés vers moi. Une famille musulmane, c'est un peu... Voilà. Mais ça m'a permis, en fait... une porte ouverte de parler de Dieu aux gens. Et voilà, donc je voulais vraiment apporter peut-être des encouragements à d'autres personnes, et aussi par rapport à ce que tu as dit, que le Seigneur fait son œuvre, en fait.
Merci beaucoup. Oui, une dernière question là-bas, notre sœur.
Alors, moi, je n'ai pas beaucoup de temps, en fait, pour... Je voulais poser cette question juste avec le pasteur tout à l'heure, mais comme j'aurai pas le temps, je vais partir, donc je vais le poser ici devant tout le monde, c'est pas grave. J'ai vraiment besoin de réponses, en fait. C'est par rapport à mon foyer. Il y a un esprit de mort dans mon foyer, et cet esprit de mort tourne autour de mon mari depuis, ça fait plusieurs années. Mon mari ne connaît pas le Seigneur, et il ne veut rien savoir du Seigneur, et du coup... Je vois vraiment des esprits qui tournent autour de lui. Comment je peux délivrer mon mari? Comment je peux l'aider, sachant que lui, il refuse de connaître Dieu?
Tu es plus dans quelle église?
Avant, je fréquentais cette église, mais maintenant, je fréquente une autre église qui s'appelle MLK. Et cet esprit, en fait, je l'ai vu 2 fois dans mon foyer.
C'est... Il y a une solution, mais il faut qu'on discute avec toi. On ne pourra pas donner la réponse comme ça tout d'un coup. Il faut qu'on discute vraiment. Mais je pense que l'esprit des morts que tu vois ne pourra pas rester longtemps à la maison. Si toi, tu es ancré en Jésus-Christ, il va partir. C'est par ta foi que ton mari sera libéré de ça. Dieu peut faire quelque chose de meilleur, de merveilleux. Mais c'est mieux qu'on en parle un peu, qu'on explique certaines choses avec vous. Et ça peut aider votre mari. Parce que le Seigneur est puissant. Il y a de la parole de Dieu qui nous révèle qu'est-ce qui peut se passer. L'enfant de la femme cananéenne, ne croyait pas en Jésus-Christ. Mais sa mère qui avait la foi. Sa mère dit, Jésus, ma fille est malade là-bas. J'ai dit, mais ta fille est guérie. Sa fille était libérée parce que sa maman croyait. Mais sa fille ne croyait pas. Le centenaire romain a demandé au Seigneur de libérer son serviteur qui était juif aussi. Mais la foi du centenaire romain, cet homme-là, a libéré son serviteur. Il y a quelque chose qui peut se passer par ta foi. Donc du coup, il faut qu'on voit ça. Et on peut voir ça et que Dieu peut nous aider. Jésus-Christ, Dieu aime la famille. Dieu aime beaucoup la famille. Il ne va pas laisser les malades détruire la famille. Il aime beaucoup la famille. Et c'est mieux qu'on en parle un peu, qu'on trouve un temps. Et puis on verra ce qui peut se faire. Et là, j'aurais invité aux responsables des églises ici, à ces mots, on verra, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire pour notre sœur. Amen. Voilà, soyez prêts les responsables, je vais vous inviter. C'est vous qui allez faire ça, ce n'est pas moi. Soyez prêts, je vais vous inviter. Après ce service, c'est vous qui allez faire ce travail-là, pour notre sœur et sa famille. Et que Dieu puisse libérer son mari. Il ne va pas mourir, ne t'inquiète pas. Mais il faut qu'on fasse ça vite. Du fait que tu en parles comme ça ouvertement, ça va s'acharner contre toi. Donc c'est mieux qu'on voit ça rapidement. Et j'aurais bien sûr les responsables d'église ici qu'on puisse rapidement s'occuper de ces problèmes-là. et prier pour notre sœur et son mari soient en vie. Nous ne voulons pas aller aux obsèques. Nous voulons aller à la joie que la famille soit bénie. Qui va aller aux obsèques de son mari? Personne. Donc, on veut que Dieu puisse le libérer complètement. Jésus peut le faire, parce qu'il est vivant. Amen. On va le faire. Donc, les responsables d'église ici, de ces mots, préparez-vous. On a un bon travail à faire. Quel est votre prénom?
Rachel.
Rachel. Bon, on va prier pour vous. Alors, on va prier pour prendre notre pause et puis on va démarrer le programme, notre programme après. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Nous voulons te remercier, Père, pour ce temps de la parole que tu nous as donné, de savoir qu'il y a plein de choses cachées que nous ne savons pas, mais par ta grâce, nous pouvons les connaître. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence parmi nous et tout ce que tu nous donnes pour comprendre les Écritures. Bénis ton peuple, bénis chacun de nous, fortifie-nous, Seigneur. Merci pour ta victoire qui est notre victoire. Nous te remercions pour des grandes choses que tu vas faire au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps de pause aussi. Sois avec nous. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Prenons ce temps de pause pendant 5-7 minutes et puis on va revenir.